Bonjour, je m'appelle Bruce Edwards et bienvenue à l'écoute de ce podcast du FMI. Aujourd'hui, pour l'entrepreneur africain, les difficultés souvent peuvent ouvrir la porte à l'innovation.
Je m'appelle Mme Haridienne. Je dis que je suis serial entrepreneur parce qu'à ce jour, j'en ai trois. J'ai commencé en 2005 l'entrepreneuriat avec Bioessence où j'ai fait des cosmétiques et des compléments alimentaires naturels. Aujourd'hui, Biocondiments que j'ai créé récemment, très très récemment, fait également des épices et des condiments et des thés venant d'Afrique.
Chaque pays en Afrique subsaharienne a son propre ensemble de défis et de possibilités. La communauté internationale a beaucoup investi à savoir comment augmenter la croissance économique de la région. Mais la majorité des Africains dirait que le développement de l'Afrique reste dans les mains de ces jeunes entrepreneurs. Mme Caridienne est une de ces entrepreneurs du Sénégal, où elle transforme les graines de l'énorme arbre de baobab en huile exotique. L'huile de baobab fabriquée par son entreprise est recherchée dans le monde entier. Mme Caridienne a été invitée à parler de l'investissement privé en Afrique au cours des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Donc, vous êtes à Washington pour discuter l'investissement privé en Afrique, mais il y a beaucoup d'investisseurs qui ne sont pas confortables à investir en Afrique. En fait, la perception en général, je crois, est que c'est difficile de travailler en Afrique. Êtes-vous d'accord?
Alors, c'est vrai que c'est la perception que l'on a de l'Afrique est une image qui, pour moi, est faussée dès le départ. D'une part, parce que quand on pense à l'Afrique, on pense tout de suite à la guerre, à la famine. En tout cas, ça semble très, très flou, très, très noir. On ne sait pas que l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne, c'est plus de 46 pays différents, avec des cultures différentes, avec des opportunités différentes. Seulement, il est effectivement difficile parfois de faire du business quand on a une approche occidentalisée, on va dire, simplement parce que on n'a pas les informations dont on a besoin. On n'a pas les statistiques dont on a, et les statistiques sectorielles. Donc, il semble difficile, effectivement, de pouvoir piloter et même de commencer une entreprise quand on n'a pas les informations. Donc, c'est comme si on vous demande de fermer les yeux et de marcher.
Donc, une perception que le risque est peut-être plus élevé sans ces statistiques.
Voilà. Sans les statistiques, on a effectivement l'impression que le risque est plus élevé. Mais simplement, ce que je voudrais dire, c'est que l'Afrique est une terre qui est encore vierge, où tout est à faire en termes d'infrastructures, en termes d'investissements agricoles, industriels et même des services. Beaucoup de start-up se lancent. Parce que ce qui semble être des difficultés pour un entrepreneur constitue des opportunités. Et ces opportunités sont des opportunités qui rapportent de l'argent. Tout le monde sait qu'en général, quand on investit en Afrique, à minima, on récolte trois fois plus que ce qu'on a investi. Donc je pense qu'effectivement, l'Afrique a besoin d'investissements au niveau local, au niveau international, des investissements étrangers directs. Donc, voilà.
Alors, effectivement, comme vous dites, c'est pas toujours facile de faire affaire en Afrique. Comment se fait-il que vos entreprises ont vu autant de succès?
En réalité, comme je vous ai dit, hein, c'est se lancer qui est difficile. Il y a effectivement des contraintes. Beaucoup de contraintes qui parfois sont des contraintes macroéconomiques parce que parfois on a besoin d'un encadrement qu'on ne trouve pas. L'histoire du Sénégal qui n'avait pas de code barre, heureusement que ça a été réglé, mais pour, ne serait-ce que pour profiter de l'AGOA avec la possibilité qu'a donné les États-Unis de faire du commerce en ne payant pas du tout de taxes sur beaucoup des milliers de produits africains, mais le premier acte de l'AGOA, c'est prouver l'origine d'un produit. Comment tu le prouves? Comment on peut prouver l'origine si, effectivement, on a la langue qui fait barrière, donc des certificats d'origine qui sont en français, qui ne sont pas traduits, Et ce n'est pas le douanier américain qui va le faire. Et l'autre chose, le produit lui-même qui doit être traçable, parce que ça fait partie des normes internationales. Et donc ça, c'est par exemple des défis que le Sénégal a pu relever, mais que d'autres pays africains, beaucoup de pays africains ont aujourd'hui, ou simplement avoir certains produits disponibles. Je prends toujours l'exemple de la mangue. Je dis aujourd'hui, tout cosméticien africain achète le beurre de mangue à l'étranger à des prix qui sont très chers, alors que les mangues pourrissent en Afrique. Et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec? Donc, ce sont toutes ces difficultés. Mais je veux dire, moi, depuis le départ avec mon entreprise, ce que j'ai essayé de faire, c'est de me dire que le marché que j'essayais de conquérir était un marché international, qu'il fallait donc depuis le départ s'organiser de façon à respecter ces normes internationales de qualité, et que l'Afrique ne peut pas être l'exception de non-qualité du monde. Ce qui me chagrine beaucoup, c'est toutes ces institutions ou ces normes internationales, ces institutions qui les font, l'Afrique n'est pas dedans, n'est pas du tout représentée dedans. Donc c'est un défi, c'est un challenge, c'est un plaidoyer que je fais auprès des institutions de créer également des standards au niveau africain, qu'on ne soit pas obligé, quand on a besoin de faire une analyse, de le mettre par DHL ou UPS pour l'emmener aux États-Unis ou en France ou ailleurs, qu'on puisse avoir des standards de qualité qui soient sur le territoire africain et faits par des Africains.
Croyez-vous qu'il y a un marché important régional en Afrique ou est-ce que c'est absolument nécessaire d'exporter les produits comme vous le faites pour rendre une commerce rentable?
Effectivement. Vous savez, le marché régional existe. La preuve, quand vous prenez la balance commerciale, vous vous rendez compte que la plupart des pays africains à faible revenu importent presque tout ce qu'ils mangent, les textiles également. Et ce qui me fait très extrêmement mal et que je trouve dramatique, c'est d'être absolument dépendant au niveau de la santé, du secteur de la santé. Les médicaments viennent également de l'étranger. Donc, pourquoi pas prendre ces défis-là au niveau régional, s'entendre et non seulement avoir une offre africaine commune pour pouvoir ne serait-ce que adresser les possibilités de financement d'organisations comme la Banque mondiale et avoir des laboratoires au niveau de l'Afrique, mais également essayer de renforcer le secteur privé africain, le secteur privé local, où l'investissement, en tout cas au niveau des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries, pour échanger entre les pays africains. Il y a des produits qui existent dans d'autres pays, qui n'existent pas dans les nôtres, qui sont des pays frontaliers. Je prends l'exemple du sésame qui est fait par le Burkina, dont on peut avoir massivement besoin au Sénégal. Pourquoi aller le prendre à l'étranger? Pour le riz, c'est la même chose. Heureusement que localement, on commence à produire du riz et que les gens consomment le riz produit localement. Parce que ça, c'était un problème. Produire et ne pas avoir les personnes qui consomment parce qu'ils sont habitués à d'autres goûts et à un autre standard de qualité. C'est... Il nous est arrivé, comme je l'ai dit pendant le panel, au Sénégal, de fermer les frontières pendant 6 mois pour permettre la production locale.
Étant donné une croissance démographique très rapide, croyez-vous que les entreprises privées ont un rôle à jouer pour créer des emplois?
Oui. Alors, le problème de l'emploi est un casse-tête parce que l'Afrique est jeune. Et quand je dis jeune, moi, dans mon pays, et c'est la plupart des pays d'Afrique subsaharienne sont dans les mêmes taux, 65% de la population à moins de 25 ans, 55% de la population à moins de 18 ans. C'est une population qui est extrêmement jeune. Et de cette jeunesse-là, aujourd'hui, nous avons des défis qui sont majeurs. Parce que lorsque vous regardez entre ces 12 millions et 15 millions de nouveaux diplômés universitaires qui sortent chaque année des universités, seuls 4% trouvent un emploi, secteur public, secteur privé confondu. Ce qui veut dire que les autres qu'est-ce qu'on en fait? Et on a une population qui est encore... L'Afrique subsaharienne est sous-peuplée, on peut le dire, en comparaison au territoire. Le pays le plus peuplé est aujourd'hui le Nigeria, qui a à peu près une centaine de millions d'habitants. Ce même Nigeria, horizon 2050, ils seront à 400 millions d'habitants. Et s'ils suivent le même taux de croissance de la démographique, à la fin du siècle, ils seront 900 millions. Ce qui veut dire que si nous n'adressons pas les problèmes, si nous n'arrivons pas à faire des transferts de technologie, si nous n'arrivons pas à éduquer nos enfants, non pas de la manière qu'on le fait aujourd'hui, où on reçoit exactement la même éducation scolaire, universitaire que nos parents et nos grands-parents, alors qu'il y a de nouveaux métiers, il y a de nouvelles technologies, si nous n'orientons pas notre jeunesse, nous allons avoir un défi qui n'est pas seulement un défi africain, c'est un défi mondial. Parce que la planète, elle est interconnectée. On est tous embarqués dans le même bateau en termes d'environnement, de changement climatique et également de cette même planète qui doit produire suffisamment pour nourrir tout le monde. Les jeunes Africains ne vont pas rester à mourir de famine. Ils vont s'embarquer dans les bateaux, comme c'est déjà le cas. Ils vont aller vers l'Europe, vers les États-Unis. C'est des flux migratoires ou alors ça sera une catastrophe, une guerre, un bouleversement social. Je ne le souhaite pas. Mais nous devons trouver les solutions. Et les solutions, c'est deux choses. La première, l'Afrique doit transformer. Transformer ce qu'elle produit et dans des standards de qualité que le marché absorbe, son propre marché. Et l'autre chose, c'est que l'Afrique doit renforcer l'investissement de ses petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, parce que c'est eux qui peuvent promouvoir l'emploi et surtout l'emploi des jeunes.
C'était Mam Karidienne, entrepreneur sénégalaise. Vous allez trouver le webcast de la table ronde sur l'investissement privé en Afrique au cours des réunions de printemps, ainsi que les perspectives économiques régionales sur l'Afrique subsaharienne sur imf.org. Et vous pouvez écouter d'autres podcasts comme celui-ci sur soundcloud.com ou iTunes ou votre site préféré. Vous n'avez qu'à effectuer une recherche pour IMF Podcasts.